10 ans, temps universel, on retrouve Emmanuel Bastide pour 7 milliards de voisins.
7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins. Aujourd'hui, la sécurité routière en Afrique. C'est le continent aux routes les plus meurtrières de la planète. Elle tue autant les conducteurs que les passagers, que les piétons. Presque partout, les experts pointent la vitesse, l'absence de ceinture de sécurité ou de casque pour les motos. Et dans les rares pays où il existe une véritable législation, eh bien les verbalisations ne sont souvent pas appliquées. Alors comment faire sensiblement baisser le nombre d'accidents de la route en Afrique ? Faut-il miser sur la répression ou plutôt la sensibilisation ? Nous allons en parler avec nos invités. Bonjour Awassar.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes présidente de l'ONG Laser International qui est basée à Dakar et qui est une ONG vraiment dédiée à la sécurité routière. Vous êtes aussi secrétaire générale de l'Alliance mondiale des ONG pour la sécurité routière. On sera également en ligne avec Richard Akondande Onma qui est commissaire de police en charge des accidents de la route au commissariat central de Cotonou au Bénin. Puis un expert congolais également, Willy Valemanga, président de la commission nationale de prévention routière en République démocratique du Congo. Et quant à vous, les voisins, évidemment, appelez-nous. Dites-nous déjà si vous êtes inquiet quand vous prenez le volant. Vous arrive-t-il de commettre des infractions ? Et puis surtout, que vous soyez conducteur ou piéton, qu'attendez-vous de vos gouvernements, de vos concitoyens pour la sécurité routière ? On attend vos témoignages et vos questions au 33 1 84 22 71 71 et bien sûr sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas de laisser votre numéro de téléphone, Facebook, Twitter. Twitter, 9000 abonnés sur notre compte Twitter. Merci les voisins. Je vous lis quelques messages postés sur le fil Facebook à Ouassar.
Oui.
Ambroise, qui est à Porto Novo, au Bénin, nous dit que peu de gens respectent les règles de circulation. Le stress, les excès de vitesse sont à l'origine des accidents dans mon pays. Il faut donc sensibiliser au maximum. Kayolo, qui est à Ouagadougou, il nous dit qu'au Burkina, les deux roues font des concours d'acrobatie, qu'il est difficile de faire le tour de la ville à Ouaga, en tout cas sans croiser un accident. Après avoir passé un mois à Bamako, nous dit Kayolo, j'ai pu observer la culture de la courtoisie au volant au Mali. Chez moi, les usagers devraient se remettre en cause. Vous êtes d'accord avec ça? Des différences, des facteurs culturels aussi d'un pays à l'autre?
Effectivement, il y a des facteurs culturels. Certains pays ont beaucoup plus de conducteurs de deux roues. D'autres en ont moins. Et effectivement, quand certains pays ont des conducteurs de deux roues depuis beaucoup plus d'années. Le Burkina a une tradition de deux roues. Donc, ceux qui commencent, bien sûr, auront beaucoup moins des comportements.
Et plus de courtoisie au Mali.
Plus de courtoisie, peut-être. Je n'ai jamais fait le Mali.
Difficile d'avoir
des statistiques,
mais il paraît qu'ils
sont assez courtois.
Martial est à Yaoundé. Il nous dit la sécurité routière en Afrique est compromise par un parc auto vieillissant, par la surcharge des véhicules en nombre de personnes et de marchandises, bien sûr. Et en plus de cela, nous dit Martial, les excès de vitesse sont communs pour ne pas perdre de temps. Et les routes sont mal entretenues à 80%, faute de ressources financières. Voilà. On a surtout des messages de piétons, on aimerait bien avoir les automobilistes en ligne maintenant. Appelez-nous, ou les passagers d'ailleurs, pourquoi pas, hein, de transport en commun notamment. Appelez-nous au 33 1 84 22 71 71.
7 milliards de voisins, c'est vous qui faites l'émission.
Voilà, c'est parti. La sécurité routière en question sur le continent africain. On a mis le contact avec vous à Ouassar. Où en est vraiment le continent africain? Alors, question sécurité routière.
Alors, nous faisons partie malheureusement des 90% sur les 1 200 000 morts sur la route. 90% avec les autres pays en développement qui sommes les plus touchés, malheureusement. Et avec près de 50% de populations qui sont des populations jeunes. Et donc un facteur de ralentissement du développement durable.
Alors, est-ce qu'on peut dire, pour se remonter un peu le moral, que le nombre d'accidents augmente quand même moins vite que le nombre de véhicules immatriculés ?
Oui, ça, c'est une réalité. La décennie d'action sécurité routière a été lancée en 2011. Le Sénégal et les autres pays de l'Afrique, la plupart ont ratifié donc cette décennie d'action 2011-2020, qui vise à réduire de 50% la mortalité routière et la gravité surtout des accidents. Et nous avons effectivement remarqué qu'il y a une stagnation globalement. Mmh. Globalement, certains pays sont beaucoup plus performants que d'autres. Ça lisse, mais la mortalité reste quand même assez élevée. L'ambition, c'est vraiment 50% de réduction d'ici 2020. Et nous avons la chance, lors des derniers objectifs de développement durable signés en septembre par l'ensemble des chefs d'État de la planète, que la sécurité routière ait pu être incluse dans ces objectifs. Et nous espérons, et nous avons des réalités probantes, que certains gouvernements vont vraiment faire le nécessaire, parce que c'est une plaie pour nos sociétés.
En tout cas, il y a une forte mobilisation des organisations internationales. Quand vous dites que certains pays font mieux que d'autres, à qui vous pensez sur le continent
Alors,
africain?
Alors, quelques pays, je ne vais pas me mettre certains pays à dos. Hein.
Ah bah non, mais
je vais prendre les pays que je connais le mieux, dont le Sénégal, qui a beaucoup fait. Nous sommes passés en 2000, de presque 1000 morts. Aujourd'hui, nous sommes autour de un peu moins de 500 en moyenne annuelle. C'est donc un recul considérable. Nous avons la Côte d'Ivoire également qui a eu un recul sur la mortalité routière. Et également le Bénin. Le Bénin, pour ne citer que ces trois pays, les législations quand même qui sont fortes, avec une forte volonté des autorités, permettent de faire reculer l'insécurité sur la route. Et la mortalité, et surtout la gravité des accidents, qui est le point sur lequel nous travaillons.
Alors, quels sont globalement, parce que les auditeurs nous entendent, ils sont piétons, ils sont passagers ou ils sont conducteurs, quelles sont les principales causes des accidents, pour que l'on sache à quel moment et dans quel contexte on a le plus de risques?
Alors, le principal fait qui cause les accidents, c'est le facteur humain. Ça, c'est une chose. Et c'est vrai qu'il ne faut pas que nous nous dédouanions les uns les autres. C'est vraiment notre comportement qui est la première cause de mortalité, la cause des accidents. Et nous avons les facteurs de risque, qui sont la vitesse, le non-respect donc des limitations de vitesse en agglomération ou en zone hors agglomération. Mmh. Le non-port du casque de sécurité. Ça, c'est quelque chose de vraiment dramatique pour la jeunesse.
Pour les motos.
Pour les motos également. L'alcool au volant, parce que c'est parfois quelque chose d'un peu tabou, surtout dans nos pays. Il faudrait beaucoup plus légiférer sur ce point-là, parce que les jeunes utilisent quand même beaucoup l'alcool, surtout sortis de boîte week-end, et on constate des pics quand même d'accidents pendant les week-ends et pendant les grandes fêtes. Nous avons également le non-port des dispositifs de sécurité, le non-port de la ceinture. Pour les enfants, il n'y a pratiquement pas de législation. Très très peu de pays ont légiféré sur les dispositifs de sécurité pour les enfants, qui sont vraiment très vulnérables, les populations
qui
les plus
souvent
vulnérables.
Souvent assis devant, sans souvent ceinture, devant, à côté du conducteur.
Ou même à l'arrière, ils sont assis souvent au milieu, sans retenue. C'est quelque chose de vraiment c'est dramatique pour ces enfants. Et nous avons également le non-port de ceinture, adultes comme enfants, qui pose un problème majeur également.
Y a cette idée reçue souvent de la part de nos auditeurs, des messages qui sont postés. D'ailleurs, je vous lisais celui de Martial à Yaoundé qui nous disait que on a un parc auto vieillissant, les routes sont en mauvais état. Est-ce que c'est la route qui est dangereuse ou ce sont les humains qui conduisent?
Il faudrait rectifier cette idée reçue. C'est principalement notre comportement, 90%. Donc on ne peut pas imputer à la route, ni même au véhicule, 10% ou 20% de tort sur ces accidents-là, comme causant les accidents. La route...
C'est-à-dire les fameux nids de poules, les trous sur la route, tout ça, c'est pas ça qui est principalement la cause d'accident?
Non, parce qu'en général, quand il y a des nids de poules ou autres, ça ralentit. Alors c'est vrai que ça va à l'encontre de la vitesse, malheureusement... la route, contrairement à ce que beaucoup d'auditeurs pensent, ou contrairement à des idées reçues, cause entre 5 et 2% de la mortalité routière. Donc, je pense que c'est plutôt notre comportement qu'il faut vraiment revoir. Et pour avoir moins d'accidents, moins de jeunes, moins de nos enfants, de nos parents qui meurent sur ces routes.
Vous nous appelez les voisins, les voisines, on parle de la sécurité routière sur le continent africain. 33 1 84 22 71 71.
C'est un village mondial, donc on est tous des voisins, tous ensemble.
7 milliards de voisins, et entre nous là, entre les voisins. Hein?
7 milliards de voisins, c'est vous qui faites l'émission.
Nous sommes en ligne avec Willy Valemanga à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Bonjour, monsieur Valemanga.
Bonjour, Emmanuel Bastide. Et bonjour à tous les voisins du monde entier.
Vous êtes le président de la Commission nationale de prévention routière en RDC. Votre pays, la RDC, est à mi-parcours donc pour l'application d'un plan national sur la sécurité routière, avec bien sûr les préconisations des Nations Unies. Alors, où en êtes-vous exactement au Congo?
Merci beaucoup pour cette préoccupation qui parle de la prévention de la sécurité routière en Afrique et particulièrement en République démocratique du Congo. Je vous dirais, Emmanuel, que la sécurité routière en République démocratique du Congo est sous contrôle de la manière que nous, en République démocratique du Congo, plusieurs campagnes de sécurité routière ont été organisées depuis 2013, 2014 et 2015. Et d'ailleurs, je vous signale que le 20 ici, nous allons entamer 2016 avec une campagne de sécurité routière sur l'encadrement des motocyclistes, parce que dans notre pays, il y a un nouveau phénomène de transport en commun à deux roues, c'est-à-dire des motocyclistes.
Oui.
Donc,
généralement surchargés, évidemment.
Pardon ?
Généralement des motocyclistes, enfin des motos qui sont surchargées.
Effectivement, après avoir fait cette étude-là, nous avons constaté le ministère des Transports et Voies de Communication qu'il fallait rapidement encadrer tous les motocyclistes. Et j'ai entendu mon compatriote qui venait de parler tout à l'heure. Donc, ce sont des jeunes qui très souvent sont des exploitants dans ce système nouveau de transport en commun à deux roues.
Oui. Alors, ceci dit, bon, le Congo est très mal placé hein, en termes d'accidents de la route sur le continent africain. Je vous lis le message d'un compatriote aussi de Kinshasa qui a posté le message suivant sur Facebook. Il existe des lois en RDC pour condamner les gens qui ne mettent pas leur casque ou leur ceinture de sécurité. Cependant, il y a un vrai manque de suivi parce que les condamnations à une amende de $5 ne se font plus. Alors, où est-ce qu'on en est en termes de réglementation et puis d'application aussi des contraventions?
Eh bien, dans le cadre de l'implémentation de la sécurité routière en République démocratique du Congo, eh bien, le gouvernement a pris le taureau par les cornes. Sachez, Emmanuel, qu'en ce moment ici, notre pays est l'un des rares pays ayant signé les conventions de Vienne de 3 et de 8 novembre 1968. Mmh. Donc, il y a 38 ans que la sécurité routière existe dans notre pays et nous sommes en train donc d'améliorer davantage, surtout sur le plan juridique. Eh bien, tenez, ici quelques jours, le gouvernement, depuis une année, avait déjà voté pratiquement une loi voulant instaurer donc ce que nous appelons, nous, l'autorité nationale de sécurité routière. Donc, d'ici là, nous allons innover dans ce sens pour répondre au plan mondial d'action de sécurité routière 2011-2020. Nous sommes d'ailleurs à mi-parcours et il faut le dire clairement, Emmanuel Bastide et tous les voisins, que notre pays, la République démocratique du Congo, a fait des avancées très significatives. Quand vous devez lire le rapport de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, CEA, donc notre pays a été très bien placé par rapport, bien sûr, le premier pays, c'est le Ghana, venu de Nigeria, et puis la RDC ex-aequo avec l'Afrique du Sud et d'autres pays. Eh bien, nous sommes en train de travailler durement pour que la sécurité routière soit dans la mentalité congolaise. Tenez, Emmanuel, aujourd'hui, à Kinshasa, il suffit qu'un peu ne fonctionne pas, eh bien, ce sont des embouteillages. Donc, il y a maintenant une crise de conscience et surtout une nouvelle mentalité, une nouvelle civilisation de sécurité routière sur la circulation dans notre pays.
Oui.
C'est ce qui fait que, en tout cas, on parle plus de sécurité routière avec beaucoup de campagnes afin de vulgariser et sensibiliser les usagers.
Oui, Willy Valemanga, vous restez en ligne avec nous. Bien sûr, les voisins peuvent réagir à ce que vous venez de dire. Est-ce que vraiment la RDC est sur le chemin de la sécurité routière à Ouassar, de l'Asie internationale?
Il est vrai que beaucoup de pays comme la RDC légifèrent sur la sécurité routière et que les autorités prennent en compte ce phénomène.
Sur 54 pays, il n'y a qu'une dizaine de pays qui légifèrent réellement avec une vraie législation sur le port du casque, la vitesse,
qui peut être,
etc.
qui peut exister, qui n'est pas forcément complète ou qui ne couvre pas tous les facteurs de risque. Maintenant, il y a cette législation, mais d'un autre côté, il y a l'application de la loi. Et s'il y a un gap entre ces deux-là, c'est vrai que pour faire reculer durablement l'insécurité routière, il faudra un peu plus de temps. Maintenant, on demande qu'il y ait en même temps que cette législation une application beaucoup plus stricte de la loi et également des sanctions qui ne sont pas uniquement pénales, mais également pécuniaires, parce qu'on s'est rendu compte que voilà, quand on frappe au porte-monnaie des usagers, il y a un peu plus d'impact, donc il y a un gap quand même entre les deux.
Avec le risque évidemment que ça déclenche des manifestations monstres. Hein. On se souvient des grosses manifestations en mars dernier au Tchad, des lycéens à qui on imposait, enfin lycéens et étudiants,
les jeunes.
Qui sont les jeunes qui évidemment se déplacent majoritairement sur des motos et à qui on imposait le port du casque. Bon, manifestation monstre avec des jeunes qui disent non, on ne peut pas s'acheter un casque aux normes, etc.
Oui, effectivement, comme vient de le dire donc mon homologue du Congo, on a quand même la législation qui fait face à une réticence de la population. Et comme je l'ai dit, c'est vraiment l'application stricte de la loi et ne pas céder. Parce que beaucoup de pays ont ces législations existantes, mais reculent souvent face à des jeunes qui disent qu'ils ne peuvent pas porter le casque, qu'ils ne peuvent pas mettre la ceinture, parce que le casque est souvent trop cher. Mais je pense qu'il y a le pari sur la vie. On ne peut pas dire qu'on ne met pas son casque, c'est sa vie qui est en jeu.
Alors justement, sur le port du casque, un auditeur, un voisin nous appelle au 33 1 84 22 71 71. Bonjour Massamba.
Oui, bonjour.
Alors vous avez 24 ans, vous n'avez pas le permis, mais vous roulez en mobylette.
Oui, je roule en mobylette à Bamako.
Voilà, oui.
Parce qu'au Mali, les motocyclistes sont 10 fois plus nombreux que les automobilistes.
Oui, tout à fait.
Oui, donc on peut se faire une moto sans permis, sans rien, donc sans apprendre aussi le code de la route. On peut rouler à Bamako partout où tu veux. C'est ce qui entraîne une anarchie totale sur la route.
Parce qu'en fait, vous n'avez pas été formé au code de la route, du coup, puisque vous n'avez pas besoin de permis.
Non, au Mali, on n'a pas besoin de permis pour rouler à moto.
Ouais. Donc, le code de la route, vous l'avez appris comment?
Donc, ce n'est même pas appris. On roule anarchiquement. Aucun motocycliste.
Je vais apporter quelques précisions quand même.
Ah ouais, ça.
Parce que ça dépend de la cylindrée. Je ne voudrais pas qu'on donne des mauvaises informations.
Oui, non, là il s'agit de
la motocyclette et moto. Voilà.
Est-ce que vous portez un casque
pour le permis de conduire?
Massamba, vous portez un casque ou pas?
Oui. Personnellement, moi je porte un casque. Un casque. Mais ceux qui portent un casque parmi les mobilettes sont au nombre de 1%.
Ben oui, très rare. Merci beaucoup de nous avoir appelés, Massamba. On voit bien tout de même, je ne sais pas si vous êtes toujours en ligne avec nous, Willy Valemanga, que sur le terrain, quand même, l'application de la législation et puis la sensibilisation au code de la route, c'est quand même un vrai problème. Hein. Est-ce que c'est la même chose en RDC?
Merci beaucoup. J'ai bien suivi le gap qui existe entre la loi et son application sur le terrain. Voilà pourquoi la République démocratique du Congo, ayant appris toutes ses vertus, nous avons donc ce que nous appelons nous ici le barème des sanctions, c'est-à-dire des contraventions. Et en République démocratique du Congo, les jeunes qui sont en train donc de pratiquer la moto comme étant leur job avec tout ce qui s'ensuit, eh bien, nous leur demandons de porter le casque et avoir seulement un seul client derrière son et aussi avec casque.
Merci pour cette précision, Willy Valemanga. Reste à savoir si tout cela est appliqué. Vous réagissez où que vous soyez, d'ailleurs sur le continent africain ou ailleurs, au 33 1 84 22 71 71. On parle de la sécurité routière aujourd'hui. Faut-il plus de prévention, plus de sensibilisation, plus de répression avec des amendes? On en discute avec vous également, Awa Sarr, présidente de l'ONG Laser.
On a fait les frais. RFI, 10h33, en temps universel, 7 milliards de voisins.
Milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue. si vous nous rejoignez, 7 milliards de voisins, c'est du lundi au vendredi sur RFI. Nous parlons aujourd'hui de la sécurité routière en Afrique avec Awa Sarr, qui est présidente de l'ONG Laser International, qui est une ONG basée à Dakar et dédiée à la sécurité routière. Et vous êtes aussi secrétaire général de l'Alliance mondiale des ONG pour la sécurité routière. Awa Sarr, vous êtes avec nous et vous réagissez bien sûr et vous nous expliquez quels sont les pays, vous nous le disiez en première partie d'émission, qui ont le plus progressé sur le continent africain pour limiter la mortalité et les accidents de la route, le Sénégal, la Côte d'Ivoire,
le Maroc aussi.
Le Maroc, ils ont encore 4000 tués hein, par an, hein, beaucoup se plaignent, mais ils ont progressé, c'est vrai. Le Bénin, alors justement, on est en ligne avec un commissaire de police à Cotonou. Bonjour, Richard Akondande Onma.
Bonjour.
Monsieur Akondande Onma, vous êtes donc commissaire de police en charge des accidents de la route au commissariat central de Cotonou au Bénin. Votre pays dispose d'une vraie législation depuis les années 70. Hein, il y a une vitesse qui est limitée à 50 km/h dans les villes. Bon, sinon après sur la route, évidemment, il faut respecter les panneaux de limitation de vitesse. Le port du casque est obligatoire. La ceinture de sécurité. Est-ce que cette législation-là a vraiment eu des résultats sur le nombre d'accidents de la route?
Merci à RFI et merci à tous les voisins. Vous faites bien de mettre un accent particulier sur l'implication des autorités en matière de la diminution des accidents de route à Cotonou et au Bénin en général. Et la législation en la matière est très diversifiée. Il y a les décrets, les arrêtés et le code de la route. Mais qu'est-ce qu'on constate? À l'application, tous ces tests-là peinent à être respectés par nos concitoyens du fait de l'incivisme généralisé et du fait du taux d'analphabétisme très grand chez nous.
Alors, donnez-nous quelques exemples. Qu'est-ce que vous entendez exactement par incivisme? Parlez-nous des situations que vous rencontrez au quotidien en tant que commissaire de police chargé de la sécurité routière.
En matière d'incivisme, il est clairement affiché de la part de nos concitoyens au Bénin et à Cotonou que les feux tricolores ne disent pas grand-chose aux usagers. Et lorsque le feu est au rouge, on voit que des usagers passent royalement. Il y a également l'excès de vitesse en agglomération. Il y a le non-respect des couloirs de circulation. On ne peut pas ne pas citer le cas le plus dangereux, le non-respect des passages, c'est-à-dire des ordres de passage.
Donc, avec la priorité à droite et tout. Oui, mais monsieur le commissaire, il n'y a tout de même pas besoin de savoir lire et écrire pour comprendre qu'au feu rouge, il faut s'arrêter.
Absolument, mais chez nous, c'est encore plus aigu. Et donc, c'est dans les approches de solutions que nous sommes rendus compte qu'il vaut mieux qu'on fasse une grande sensibilisation au lieu de nous appesantir sur la répression. Et c'est le lieu, l'occasion de vous dire que les autorités au sommet de l'État, en particulier les autorités de la police, ont compris l'enjeu et depuis 2013, nous nous sommes mis comme solution qu'il faut carrément que les usagers à deux roues, qui sont les plus nombreux dans nos grandes villes, que ces usagers-là, et lorsqu'ils sont en situation de conduite de leur moto, qu'ils passent à l'extrême droite. Et on appelle ici l'opération piste cyclable. Et ça a porté les fruits parce que d'une vingtaine de cas d'accidents avant 2013 par jour dans la ville de Cotonou, nous sommes aujourd'hui, tenez-vous tranquille, à 9 cas. Donc ça a diminué de plus de la moitié.
Vous voulez dire que les motocyclistes, évidemment, se sentent plus confortables sur ces pistes, donc ils les empruntent volontiers?
Ils les empruntent volontiers. Et on a enclenché une autre opération qui est le port systématique de casque, notamment en conformité avec le décret 112-113 du 27 avril 1972 prescrivant le port obligatoire de casque aux conducteurs de moto. Et donc, dans un contexte où les motocyclistes ne sont pas en majorité assurés, dès lors que l'accident suivait, et ils tombent. Alors, ça, c'est là pour diminuer les accidents.
Oui, avec voilà, des amendes assez chères. Awa Sarr de l'ONG Laser International.
Pour rebondir un peu sur ce qu'il vient de dire, en fait, le transport durable est un des challenges majeurs de la sécurité routière, puisqu'il s'agit vraiment de séparer les différentes voies pour les différents types d'usagers de la route. Parce que les piétons les motocyclistes sont les plus vulnérables. Et malheureusement, dans nos pays, ce sont les premières victimes. Et il s'agit effectivement de les d'intégrer la séparation donc des voies dans les politiques de sécurité routière. Et c'est un des enjeux majeurs.
Donc avec des glissières, des barrières, des choses comme ça, par
voilà,
exemple,
avec des pistes cyclables, ouais. Avec des zones comme le BRT sur lequel le Sénégal, le Ghana,
voilà, transit, les bus rapides, hein, c'est-à-dire de transit, des voies spéciales réservées des voies spéciales. À des bus qui sont seuls et qui voilà. Roulent assez
développer
rapidement
également
et qui
le
se succèdent.
Ouais. Le transport en commun.
Mais alors,
dans ces voies-là.
C'est un peu en contradiction avec ce que vous nous disiez tout à l'heure. Finalement, à Ouassar, vous nous disiez finalement, ça n'est jamais la route qui est responsable, c'est le conducteur. L'infrastructure routière n'est responsable que d'une petite partie des accidents.
Alors, dans l'état actuel des choses, effectivement, l'infrastructure routière, puisque tout le monde emprunte les mêmes voies, et c'est le conflit, en fait. Ce n'est pas la route, mais c'est le conflit. Parce que les gens confondent les infrastructures et la route elle-même, qui peut être en bon ou mauvais état. Là, je parle de voies de séparation pour les différents usagers de la route, qui permet une plus grande fluidité et une séparation entre les différents usagers de la route, qu'ils soient piétons, conducteur de deux roues ou conducteur de véhicules motorisés.
Voilà, le conflit entre les différentes situations, en fait, pour parler clairement, c'est le chaos quoi qui crée l'accident, hein, c'est ça, d'une certaine façon.
Alors, on va pas dire le chaos parce que c'est pas réellement le terme, c'est l'incivisme, le mot que vient d'employer mon prédécesseur, c'est l'incivisme sur la route.
Alors, nous avons justement un auditeur qui est béninois qui nous appelle, qui est en région parisienne, je crois. Bonjour Alexandre.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes un béninois de Cotonou, c'est bien cela ?
Exactement, oui. Et moi, ce qui me tient beaucoup à cœur, c'est les piétons à Cotonou. Mmh. Les piétons à Cotonou n'ont pas... Leur sécurité n'est pas assurée. Et par exemple, pour traverser une route, c'est très très difficile. Et j'ai entendu dire qu'il y a des ONG pour la circulation. Et je voudrais quand même qu'il y ait aussi des ONG. Et je pense qu'à terme, je militerai pour ça, qu'il y ait des ONG pour les piétons. Les piétons n'ont pas le droit de citer et sont vraiment en insécurité. Et quel est le problème? Des fois même, quand on parlait tout à l'heure, vous parliez tout à l'heure d'avoir des voies pour les piétons et tout ça. Mmh. Il y a de très jolis trottoirs à Cotonou, mais malheureusement, les trottoirs sont pris d'assaut par les vendeurs et les marchands sont entrapés le trottoir et les piétons sont obligés de marcher sur la chaussée.
Alors, Alexandre, vous tombez bien parce que nous avons en ligne également un commissaire de police chargé des accidents de la route au commissariat central de Cotonou. Donc, je pense qu'on va lui laisser la parole. Monsieur Akondande Onma, vous êtes toujours en ligne avec nous à Cotonou.
Je suis en ligne, RFI. Oui.
Alors, que faites-vous pour justement concrètement répondre à Alexandre qui s'inquiète du sort des piétons à Cotonou et qui ne peuvent même plus marcher sur les trottoirs?
Évidemment, le cas que dénonce votre auditeur est fondamental, c'est vrai. Et la police a entrepris donc des opérations. Et ces opérations-là nous permettent de dégager... les trottoirs qui sont pris d'assaut, comme il a dit, par les marchands, les lieux de culte.
Bon, mais alors, concrètement, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous verbalisez les marchands ambulants qui sont là et qui, finalement, prennent toute la place sur les trottoirs ou pas?
Ces marchands sont systématiquement verbalisés et par la police nationale que la police municipale qui est du ressort donc de la mairie. Donc, c'est toute une guerre qui est menée contre ces marchands-là.
Et pour les piétons, sinon, que faites-vous?
De toute façon, ces mesures-là sont en train de porter leurs fruits et on voit que les piétons ont commencé par trouver leur accès, les trottoirs un peu libres et ça se passe très bien.
C'est vrai que c'est un ensemble de mesures en fait croisées qui permettent l'amélioration, autant le déguerpissement dont monsieur parlait des trottoirs qui permettent de libérer donc les voies de circulation des piétons, que l'ensemble de ces législations sur le casque et un peu plus de sévérité également envers les conducteurs. Je parle bien des conducteurs, pas seulement de transport en commun ou de particuliers. Ou de conducteurs de deux roues, mais de l'ensemble des conducteurs.
Dernière question pour vous, monsieur le commissaire, en charge des accidents de la route au commissariat central de Cotonou. Vous disiez que finalement, c'était ce qui portait le plus de fruits, c'était la sensibilisation bien davantage que la répression. Mais rassurez-nous, vous continuez de verbaliser les conducteurs, que ce soit des conducteurs de deux roues, des conducteurs de voitures, ou bien est-ce qu'il y a moyen de s'arranger quand on est en infraction avec un policier à Cotonou?
Non, pas du tout. La verbalisation continue. Et lorsqu'on constate que quelqu'un est en situation de récidive, il est verbalisé, il va d'abord payer la contravention et ensuite on l'oblige à voir un sac d'abord avant de lui remettre sa moto. Mmh. Et de toute façon, il n'y a pas de contact suspect avec les policiers parce qu'il y a une structure
On est en train de perdre la ligne téléphonique, Richard Aconte dans Ndéonma, mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir été en ligne avec nous, commissaire de police en charge des accidents de la route à Cotonou. Merci également à Alexandre de nous avoir appelé. Nous accueillons un nouveau voisin, Hassan, qui est à Maroua dans le nord du Cameroun, ou non, Emmanuel, qui est à Douala d'abord. Bonjour Emmanuel, soyez le bienvenu, vous êtes un voisin camerounais.
Bonjour Emmanuel. Je voulais un petit peu réagir au niveau du comportement, parce que je pense que c'est l'essentiel du problème, et du problème de l'apprentissage au niveau des auto-écoles, parce que le permis au Cameroun s'achète, c'est 5000 francs la pratique, la théorie 5000 francs CFA et 10000 francs la pratique. Donc tant que ces pratiques douteuses de corruption vont perdurer, on aura des gens qui n'auront pas du tout la capacité de conduire. Moi, le problème, c'est la corruption.
Ouais.
C'est vraiment le principal problème. Il y a beau avoir des feux rouges, des réglementations. Il y a un paradoxe au Cameroun, c'est que quand une personne boule un feu rouge vient vous cogner, il vous dit « tu m'avais pas vu ». Donc, c'est vraiment un problème de mentalité.
Merci Emmanuel. Alors, je précise que vous êtes un voisin français au Cameroun. Vous êtes installé depuis très longtemps, hein, je crois, sur place.
Je suis
un immigré,
moi.
Ok. Non, mais je pense que la situation que vous dénoncez, évidemment, elle est largement partagée à Ouassar là-dessus, justement, sur le problème de la corruption, sur les verbalisations qui, en réalité, sont des sommes qui ne tombent pas dans les caisses de l'État, alors qu'on sait que la verbalisation pourrait finalement autofinancer aussi en partie les politiques de sécurité routière. Vous me dites si je me trompe.
Enfin oui, moi je reste plus sur le terrain de l'application beaucoup plus stricte de la loi. C'est-à-dire voilà ne pas tolérer, tolérance zéro. C'est vrai que le ministère des infrastructures au Sénégal travaille avec le ministère de l'Intérieur pour vraiment qu'il y ait une tolérance zéro, parce que c'est dans certains pays c'est de la corruption comme il vient de le dire au Cameroun,
c'est-à-dire que le conducteur
nous, peut-être
a bien
un peu
verbalisé,
de tolérance,
mais
peut-être un peu plus de tolérance, voilà, on demande pardon aux policiers, oui on le refera plus, oui j'ai ma famille, je dois aller à l'hôpital. Et ça passe. Et ça ne devrait plus passer, parce qu'on peut tuer des gens, on peut voilà appauvrir une famille qui a quelqu'un de blessé, quelqu'un d'invalide, il faut l'amener à l'hôpital.
C'est ça, les accidents de la route ont des conséquences économiques désastreuses. Hein,
au-delà de la conséquence sociale, de la peine pour la famille, il y a les conséquences économiques qui sont terribles. Et c'est des facteurs d'appauvrissement très lourds pour les familles qui souvent ne peuvent pas en supporter les coûts. Malheureusement, il faut voir toutes ces conséquences pour appliquer sévèrement la loi.
Nous donnons maintenant la parole, en effet, à Hassan, qui est à Maroua, dans le nord du Cameroun. Bonjour, Hassan.
Bonjour, Emmanuel.
Hassan, vous avez 23 ans, et vous, ce qui vous inquiète surtout, ce sont le mauvais état des routes chez vous.
Oui. Ici, chez nous, au Cameroun, chaque semaine qui passe, chaque jour qui passe, les accidents routiers ne cessent de survenir. Ces accidents routiers sont dus au mauvais état de la route. Certaines routes sont, la largeur de ces routes est tellement inférieure de telle sorte que deux voitures ne peuvent pas circuler, ne peuvent pas doubler en même temps. Mais le gouvernement a relevé que ces accidents sont dus à l'incivisme. C'est-à-dire que les chauffeurs ne respectent pas le code de la route, mais aussi et surtout qu'ils filent à vivre à lui. En plus, le gouvernement a relevé aussi que ces accidents sont dus à l'état alcoolique de certains chauffeurs.
Et vous, ça n'est pas votre sentiment finalement quand vous nous décrivez la réalité des routes chez vous à Maroua?
Vous dites?
Vous ne partagez pas finalement le constat des autorités concernant l'incivisme. Vous continuez de dire qu'il s'agit bel et bien de la mauvaise qualité, du mauvais état des routes.
Il est bien vrai que le gouvernement camerounais a installé les radars dans certaines routes qui relient les grandes villes. Mais depuis qu'ils ont installé ces radars, nous n'avons pas vu les résultats positifs concrets.
Merci beaucoup Hassan de nous avoir appelé. Je voudrais justement, sur le mauvais état des routes, qu'on donne la parole à Jean qui nous appelle de Port-au-Prince en Haïti. Bonjour Jean.
Bonjour Emmanuel.
Jean, vous nous appelez, je rappelle le numéro au 33 1 84 22 71 71. Vous souhaitez réagir par rapport à ce que vous avez entendu et bien sûr attirer notre attention sur le problème de la sécurité routière en Haïti.
Oui, voilà, mon problème est la suivante. Imaginez-vous, à cause de la faiblesse de l'État et aussi à cause de son comportement laxiste, donc, on met nos vies en danger presque chaque jour. Le port du casque, n'est pas une obligation, mais plutôt un choix.
Oui.
Et mettre son ceinture de sécurité est aussi un choix. Et aussi, il n'y a même pas un radar en Haïti. Donc, vous imaginez, les panneaux qui sont censés être là pour la suivi des automobilistes, ils ne respectent même pas. Ils font ce qu'ils leur chantent parce qu'il n'y a pas de sécurité routière. Mmh. On piétine totalement le code de la route.
Oui.
Moi-même, ma question là, c'est le...
Oui.
Quel comportement je devrais avoir en tant que piéton face à des conducteurs aussi négligents?
Bonne question Jean, merci beaucoup de nous avoir appelé à Ouassar.
Ces deux interventions nous ramènent vraiment au déni que beaucoup de conducteurs font de leur comportement, qui est le principal facteur donc d'accidents sur la route. Et il s'agit vraiment au-delà donc des législations, au-delà de ce que autant les gouvernements que les municipalités font pour déguerpir les trottoirs, pour nous obliger à porter le casque, la ceinture, qu'on comprenne bien qu'il s'agit de notre vie, de notre santé publique et de la vie de nos enfants, et qu'on doit s'obliger nous-mêmes à avoir cette rigueur dans le comportement. Parce que quand on est sur la route, ce n'est pas juste nous-mêmes, notre véhicule ou notre moto. La route est un espace public qu'on doit partager tous ensemble, en toute sécurité. Mais
vous n'avez pas le sentiment, Ouassar, que tout le monde se renvoie la balle, finalement? Un autre auditeur précédent à Marois, dans le nord du Cameroun, nous disait c'est l'état des routes, c'est la faute de l'état des routes, on ne peut même pas se doubler un véhicule tellement les routes sont étroites. Le gouvernement dit ce sont les chauffeurs qui ont bu, en gros. Tout le monde se renvoie la balle. En Haïti, Jean nous disait, quand le casque et la ceinture de sécurité n'est pas une obligation, mais un choix, qu'est-ce qu'on fait?
Alors, justement, tout ça nous ramène à l'humain. Tout ça nous ramène à l'humain. Alors si c'est un choix, on choisit, nous, en tant qu'être humain, de vivre ou de survivre. On sait qu'en ne mettant pas le casque, on risque un traumatisme crânien grave ou la mort. On choisit de le mettre. C'est un choix humain et un choix vraiment, pour moi, de bon sens. Quand les législations existent, par contre, on doit les appliquer. Et quand on ne les applique pas, effectivement, que le gouvernement, les législateurs, nous appliquent strictement cette loi pour nous préserver.
On voit bien que la répression, quand même, avec de vraies amendes à payer, souvent mal vécue par les conducteurs, et que ça déclenche souvent des tollés, des soulèvements populaires.
Alors, il y a des bonnes pratiques qui sont vraiment prouvées dans le monde entier. Lorsque l'on fait appliquer très strictement cette loi, l'insécurité routière, elle recule. Donc il ne faut pas qu'il y ait ou du laxisme ou en tout cas de la tolérance par rapport à telle ou telle pratique culturelle. Il s'agit de sauver des vies humaines. 1 million, presque 300 000 morts dans le monde entier
par an.
C'est vraiment excessif. 90% dans nos pays en développement, on ne peut pas se le permettre. Nous aspirons vers le développement. Si on se retrouve en 2020 avec 65% d'augmentation du risque routier, du risque de mortalité routière, pardon, parce que nous ne voulons pas changer nos comportements, nous nous retrouverons avec un gros problème et nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas.
Nous accueillons un voisin qui nous appelle de Mbour, à 80 km de Dakar. Bonjour Abdou.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes un ancien coureur automobile?
C'est exact.
Oui, nous vous écoutons.
Ben oui, mais enfin, j'écoute depuis tout à l'heure, mais enfin, à mon avis, le problème, il est global, il commence par la formation. Quand on parle, j'entends revenir le terme d'incivilité, mais on a énormément de gens sur la route qui ne connaissent même pas les règles élémentaires du code de la route. Donc c'est déjà dans les façons de faire passer les permis de conduire, de délivrer les permis de conduire qu'on a un premier problème. Ensuite, on a un problème sur l'état de véhicule.
Sur le problème sur les permis de conduire, pour parler très clairement, vous avez le sentiment que le permis de conduire peut s'acheter trop souvent?
S'acheter ou en tout cas être passé dans des conditions qui sont anachroniques et incompréhensibles. Moi, quand j'ai passé mon permis au Sénégal en 88. Quand je l'ai passé, on m'a expliqué que je ne pouvais pas avoir le code du premier coup parce que c'était la règle. Donc j'ai repassé une deuxième fois le code. Alors je connaissais mon code. On m'a fait passer deux fois la conduite sans raison. Donc du coup, devant l'arbitraire de l'examinateur, les gens se disent que c'est la norme de faciliter le rouage, de graisser le rouage. Et on arrive aujourd'hui à un système où c'est absolument généralisé. Donc moi, je croise des usagers sur la route qui n'ont même pas conscience d'être en tort quand ils font des bêtises.
Oui.
Donc ça, c'est le premier problème de la formation.
Avant même la verbalisation, donc effectivement. Oui.
Bien sûr.
Parce que sinon, la verbalisation est forcément mal vécue si on ne comprend pas son erreur.
Et les gens ne comprennent pas. Deuxièmement,
attendez, Awassar souhaite intervenir. Restez en ligne avec nous.
Il y a effectivement le problème de formation. Et c'est vrai que des ONG comme Laser International, nous attelons vraiment à former au niveau le plus jeune. Nous avons des programmes d'éducation routière qu'on appelle le Safe Route to School, qui existe depuis 3 ans, qui vise à couvrir l'ensemble des établissements, surtout ceux qui sont situés à proximité des routes ou qui sont exposés au risque routier. Maintenant, c'est vrai que il y a beaucoup d'efforts qui sont faits au niveau autorité.
Ce sont des petites formations courtes au sein des écoles.
Ce sont des formations niveau théorique et niveau également pratique, puisque nous avons des partenaires, je ne sais pas si nous avons le droit de les citer. Nous travaillons avec Total qui nous a mis à disposition un centre d'éducation routière. Donc nous allons former les enfants dans les écoles et ensuite nous les amenons sur une piste d'éducation routière, ce qui permet un apprentissage très tôt et une prise de conscience du civisme qu'il y a sur la route. Alors on dit aux petits garçons de 8 ans ou de 12 ans voilà, là tu le prends comme un jeu, tu as cogné ton voisin devant, mais dans la vraie vie tu l'as tué. Donc c'est vrai que ça fait un choc et c'est des apprentissages qu'ils gardent.
Ouais,
et
ça concerne encore très peu de monde, très peu de jeunes.
Ça concerne très peu de jeunes, mais c'est de plus en plus vulgarisé, c'est élargi dans beaucoup de pays. Mais c'est vrai que ça reste quand même un peu parcellaire. Et nous avons grand espoir que ça soit beaucoup plus vulgarisé.
Abdou, donc je vous laisse poursuivre après la nécessité effectivement pour tous ces jeunes d'avoir conscience des infractions qu'ils commettent et de comprendre de quoi il s'agit quand on parle de code de la route et d'obtenir le permis de conduire.
Tout à fait. Mais ensuite, il faut aussi que les gens utilisent des véhicules qui sont en état. Aujourd'hui, on a monté un centre de contrôle technique approximatif, on va dire, à Dakar. Mais pour tous les véhicules qui passent les visites techniques dans les autres régions, honnêtement, quand on voit l'état du parc, sur les basiques, que ce soit sur la direction, le freinage, les éléments de sécurité primaire, la signalisation, les véhicules roulent librement. Les véhicules roulent librement sans aucune, et on arrive maintenant au troisième point, on arrive au point des sanctions. Il n'y a aucune sanction, que ce soit pour l'état des véhicules ou que ce soit pour les comportements des usagers. Donc tout ça ne participe pas à une sécurisation de la route qui reste extrêmement dangereuse en Afrique. Moi j'évite autant que possible de rouler la nuit parce que c'est trop dangereux. Donc il y a un travail global à faire, mais qui doit être mû en premier par une volonté politique forte. Tant qu'on laissera la police ne pas sanctionner parce que toutes les infractions se règlent par des arrangements entre les forces de l'ordre et l'usager, on n'y arrivera pas.
Dernière question, Abdou. Là, je m'adresse à l'ancien coureur automobile, puisque vous avez dit que vous étiez ancien coureur au standard. Beaucoup de très bons conducteurs ne sont pas d'accord avec le fait que la vitesse est principalement incriminée. Dit si on est concentré, on peut rouler vite. Vous, qu'est-ce que vous en pensez?
Moi, ce que j'en pense, c'est que la force d'un accident, c'est l'inertie du véhicule, et que l'inertie, c'est la masse par la vitesse au carré.
Oui.
Donc, la vitesse est un facteur exponentiel
du
danger.
D'accord. Très bien. Non, mais parce que c'est ça.
Mais c'est pas le problème majeur.
Mais c'est pas la position de tous les tous les très bons conducteurs qui aiment rouler vite.
Voilà, c'est un ancien coureur qui parle, je pense.
Non, mais c'est bien qu'un ancien coureur reconnaisse que la vitesse est tout de même importante.
Mais c'est un facteur aggravant de n'importe quel. C'est un facteur de risque de la perte de contrôle du véhicule. C'est un facteur aggravant en cas d'impact. En aucun cas, on ne peut dire que la vitesse n'est pas, on le sait, on l'a vu en France quand il y a eu les lois il y a quelques années qui ont durci la répression sur les routes en France. Ouais.
Néanmoins, la France en ce moment non seulement ne progresse plus, mais plutôt est rétrogradée avec une augmentation du nombre de tués sur la route. Merci pour les messages que vous faites passer, Abdou. Merci infiniment de nous avoir appelé. Je voudrais aussi signaler le témoignage de Samuel qui nous appelait de Yaoundé, qui disait effectivement dans le sens d'Abdou que les véhicules bien entretenus et de bonne qualité sont rares. Par exemple, le liquide de frein au Cameroun est à 95% défectueux à l'achat, donc ne marchera pas en cas d'accident sur le freinage. Il nous reste quelques secondes pour conclure, Awassar, les actions pour vous les plus urgentes pour votre ONG Laser International pour limiter les accidents de la route.
Non, les actions les plus urgentes, il s'agit de sensibiliser réellement par des campagnes choc, nous travaillons dessus. Également de former, il y a un problème de formation et une prise de conscience vraiment réelle et qu'il n'y ait pas de déni par les conducteurs et usagers de la route de ce facteur d'insécurité routière que nous-mêmes nous causons principalement.
Et pour les gouvernements, le message pour le gouvernement.
Et pour les gouvernements, renforcer la législation, qu'elle soit beaucoup plus stricte et qu'elle
soit appliquée, peut-être.
Qu'elle intègre également les normes, parce que les casques, les lois existent, mais il n'y a pas de normes pour les casques. Il faut vraiment normer les législations et les mettre vraiment aux normes mondiales.
Donc,
et faites attention sur la route, c'est notre vie qui en dépend, c'est tous ensemble que nous sommes responsables de notre sécurité. Merci.
Merci à vous, Awassar, d'être passé par le studio des 7 milliards de voisins, présidente de l'ONG Laser International. Merci à tous nos intervenants. Demain, 7 milliards de voisins.